Santé.
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 C'est bon pour la santé.
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 C'est bon pour la santé.
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 C'est bon pour la santé.
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 C'est bon pour la santé.
Bonjour, bon midi. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez mieux que moi, qui est un petit peu dans les patates aujourd'hui. Il faut que Jean-Sébastien Laliberté me ramène à l'ordre. Marianne Paquette au micro. Avec grand plaisir, pour les 60 prochaines minutes, vous êtes sur les ondes de Canal M et vous écoutez C'est bon pour la santé. Aujourd'hui à l'émission, Nancy Godet, vice-présidente du CHSLD privé, le manoir Soleil, c'est du côté de Chambly, également fondatrice de la garderie au Petit Rayon, nous parle d'une magnifique initiative, vous allez pouvoir l'entendre, qui fait du bien à bien des gens, des petits et des grands. C'est une garderie au sein même d'un centre d'hébergement pour personnes âgées et on en saura davantage vers la fin de l'émission. Aussi, Héloïse Allard, elle, ergothérapeute, également propriétaire de la clinique pour enfants ErgoClic, nous explique que bouger pour les enfants qui vivent avec un trouble d'apprentissage, ça permet de mieux apprendre et on est en plein dans le mois de sensibilisation aux troubles d'apprentissage. On vous parlera également du quatrième grand défi de l'apprentissage, un colloque pour parents. Également, Éric Lamothe, lui directeur général de Québec en forme, nous parle de la sortie du livre Pour un Québec en forme. Ça a sorti au début du mois d'octobre et également de cette nouvelle politique gouvernementale que l'on attendait et qui est une première en Amérique du Nord. Je pense qu'il faut le souligner. Donc, cette politique de prévention en santé. Et dans quelques minutes, on joint Sylvie à nous, Samy. Elle est sage-femme, également responsable de la maison de naissance Jeanne Mance, qui a été inaugurée il y a tout récemment, le 23 septembre dernier. C'est une nouvelle maison de naissance sur l'île de Montréal, la troisième seulement. Et ben, c'est une bonne nouvelle pour les familles, notamment, qui vivent sur le plateau, Ville-Marie, Sud-Ouest et Verdun. Ça aussi, c'était attendu depuis longtemps. Mais juste avant, on parle avec Anne-Laure Janson, recherchiste de cette émission. Qu'est-ce qui a retenu son attention, point de vue de l'actualité en santé? Bonjour Anne-Laure.
Bonjour Marianne.
Merci d'être là. Donc, cette revue de presse santé, on commence avec une nouvelle toute chaude sortie tout droit du journal Le Devoir qui préoccupe peut-être les proches et les patients qui vivent avec un problème de santé cardiaque, une bactérie qui pourrait être supposément dangereuse.
Mm-hmm, exactement. La chirurgie cardiaque, en fait, des milliers de patients à risque de contamination bactérienne. Ce sont tous les Québécois qui ont subi une opération à cœur ouvert au cours des 5 dernières années. Donc, pourraient avoir été exposés à une bactérie dangereuse. Les hôpitaux procèdent à un rappel de patients. Toutefois, les risques de contamination sont très, très faibles. La bactérie a été détectée dans des appareils utilisés pour les chirurgies cardiaques nécessitant une circulation du sang à l'extérieur du corps. Ce sont des appareils, des générateurs thermiques qui ont possiblement été contaminés lors de leur fabrication en Allemagne. Alors, deux patients opérés dans un établissement de Montréal utilisant ce type d'appareil ont été infectés par la bactérie, dont les symptômes peuvent apparaître jusqu'à 5 ans après la chirurgie, d'où le délai qui est assez large. L'infection n'est pas contagieuse, mais peut entraîner de sérieuses complications et elle se traite à l'aide d'antibiotiques. Donc, des milliers de patients ont été contactés. Le risque est toutefois très faible. On parle de entre 0,1 et 1% selon le directeur des services professionnels de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Toutefois, les personnes qui ont des symptômes comme des fortes fièvres, une perte de poids inexpliquée, des douleurs musculaires articulaires, des sueurs nocturnes ou de la fatigue qui ont subi une chirurgie cardiaque entre le 1er novembre 2011 et le 28 octobre 2016 sont invités à aller consulter. L'infection peut être diagnostiquée par une analyse en laboratoire. Le dépistage préventif, malheureusement, est inutile puisqu'elle n'est pas détectable en l'absence de symptômes.
OK, donc on est prudent, mais en même temps, il n'y a pas d'alarme à avoir. Maintenant, marcher pour les personnes âgées. Donc, on parle de 3 fois par semaine, 1 heure. C'est une nouvelle étude de la Colombie-Britannique.
Tout à fait. Une nouvelle étude menée par une professeure de l'Université de la Colombie-Britannique montre qu'une heure de marche 3 fois par semaine peut aider à réduire la dysfonction cognitive qui cause la démence chez certaines personnes âgées. Deuxième cas de démence chez les personnes âgées. En fait, deuxième cause, pardon. C'est le docteur Teresa Liu Ambrose qui a conduit cette recherche avec des aînés souffrant de déficit cognitif d'origine vasculaire et non d'origine neurologique comme la maladie d'Alzheimer. Donc la chercheuse précise que c'est quand même la deuxième cause la plus commune de démence dans le monde. Dans l'étude, des aînés d'un âge moyen de 74 ans ont été séparés au hasard en deux groupes. Dans l'un d'eux, les patients devaient marcher une heure trois fois par jour. Dans l'autre, pendant 6 mois, ils suivaient un programme éducatif au sujet de la maladie. Madame Liu Ambrose soutient que les membres du premier groupe ont été capables d'améliorer leur capacité cognitive rapidement.
Une heure, trois fois par jour ou trois fois par semaine?
Trois fois par semaine. J'ai dit trois fois par jour.
Mais c'est plus réaliste. on userait les souliers de course.
Oui, et bien trop haut. Trois fois par semaine.
Maintenant, deux organismes qui allient leurs forces pour un meilleur fonctionnement, c'est la Fondation et la Société canadienne du cancer du sein.
Exact. Les deux plus importants organismes qui luttent contre le cancer veulent fusionner. La Société canadienne du cancer et la Fondation canadienne du cancer du sein ont l'intention de se regrouper en vue d'avoir un impact plus important sur la recherche et les programmes de soutien. Donc les deux organismes se réuniront sous la bannière unique de la Société canadienne du cancer. Toutefois, le mandat et l'esprit qui anime la Fondation canadienne du cancer du sein, incluant ses programmes et activités, seraient néanmoins préservés. Selon la Société canadienne du cancer, le fait de réunir les deux entités permettrait d'améliorer les résultats, d'élargir les possibilités de réduire les coûts, d'étendre les ressources disponibles, d'accroître les efforts en matière de défense de l'intérêt public et d'allouer davantage de fonds à la recherche. Cette fusion devrait être finalisée au plus tard le 1er février 2017, donc on en reparlera sûrement.
Oui, sûrement, comme quoi l'union fait la force. Maintenant, une initiative d'un jeune de la Beauce qui a créé un site web qui a quand même des visées particulières.
Oui, j'y suis allée, il est intéressant, un site web pour expliquer en fait des troubles du langage dont il est atteint, l'apraxie, la dysphasie et la dyspraxie. Il a 17 ans, il s'appelle Charles McKenna. Il a lancé ce site pour expliquer ces trois troubles qui l'affectent au quotidien. L'objectif de Charles est de faire connaître ces troubles distincts et d'aider ceux qui en sont atteints. Je veux leur montrer qu'il est possible de réussir et de les motiver à réaliser leurs rêves, dit-il. Sur son site mckennacharles.com, il raconte son parcours scolaire, les difficultés qu'il a traversées pour atteindre son objectif, obtenir un diplôme d'études secondaires en même temps que les autres de son âge. Pour cela, il dit qu'il a dû travailler plus fort, qu'il a passé souvent ses étés aussi à prendre de l'avance, mais que c'est comme ça qu'il a pu y arriver et qu'il en est très fier aujourd'hui. Il propose également sur ce site mckennacharles.com plusieurs trucs pour les parents et amis de personnes qui ont un ou plusieurs de ces troubles. Il parle de ses passe-temps, ce qu'il fait en dehors des cours. En tout cas, il est possible de le contacter même si on veut plus d'informations. Mmh. Et il a l'air très ouvert à partager
son expérience. En ce mois de sensibilisation aux troubles d'apprentissage, il n'y a rien de mieux qu'une personne qui a vécu ses étapes, ses difficultés, ses obstacles, qui a réussi peut-être à passer par-dessus, avoir des trucs, outils pour pouvoir en parler et que ça soit efficient. Mmh. Anne-Laure Janson, merci beaucoup.
De rien.
Éric Lamothe, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur général, oui, de Québec en forme, et là pour nous parler de cette sortie du livre le 3 octobre dernier pour un Québec en forme qui vient, je trouve, appuyer ces nouvelles préoccupations qu'on a ici au Québec depuis quelques années, à savoir reconnaître l'importance des saines habitudes de vie, de manger plus de fruits, de bouger davantage et notamment auprès des enfants et des familles. Cette initiative, c'était un peu aussi une façon de se rappeler des bons coups que vous avez pu faire à travers les dernières années?
Exactement. Bien, pour nous, le livre « Pour un Québec en forme », c'était un peu le livre bilan de tout ce projet pilote qui a été initié par la Fondation Lucie-André Chagnon et le gouvernement du Québec sur un partenariat qui d'une durée de 10 ans, donc qui a débuté en 2007 et qui se termine en 2017. Donc, c'était un peu pour venir mettre en valeur, mettre en lumière toutes les réalisations qui ont été faites dans les différentes régions au Québec, dans les différents milieux de vie des jeunes, et de venir illustrer concrètement tout ce qui se fait actuellement sur le terrain en termes de pratiques et d'actions, mais aussi d'amener, de venir illustrer l'ampleur du mouvement, mm-hmm. c'est-à-dire que l'ampleur des gens qui se préoccupent justement des saines habitudes de vie auprès des jeunes.
On parle de 20 initiatives qui ont été sélectionnées à travers ce livre et Éric Lamothe, mais j'imagine qu'il aurait pu en avoir davantage.
Écoutez, on avait annuellement, on avait environ 4 à 5 000 actions qui étaient soutenues partout au Québec, là, que ce soit au niveau local, régional, national. Donc, évidemment, ça a été tout un travail là, d'aller chercher les perles rares, mais en même temps, l'exercice se voulait de venir illustrer à l'intérieur de 20 récits qui sont des récits véridiques. Là. Il n'y a aucun changement de nom qui a été apporté, mais de venir illustrer là, dans chacune des... chaque région a son récit et aussi chacun des groupes d'âge. Donc, on parle des tout-petits, des ados, mm-hmm. des jeunes, ou que ce soit des actions ou des récits qui se sont passés soit à l'école, dans les municipalités, dans les organismes communautaires. Donc, on voulait vraiment là, venir illustrer à l'intérieur de ces 20 récits-là la diversité des actions qui ont été soutenues pour justement venir illustrer l'ampleur du mouvement qui a été créé avec le fonds.
Dans cette diversité-là, on parle bien sûr de deux projets que l'on a à cœur tout spécialement ici au Canalem, le défi sportif Altergo et également le programme Choisir de gagner. Il y avait cette pensée-là aussi destinée à des enfants, des adolescents qui vivent en situation de handicap.
Effectivement, et ça, c'est un projet, c'est une clientèle, on voulait quand même aussi cibler des clientèles spécifiques, et je vous dirais, tout le partenariat que nous avons eu avec le défi Altergo, c'était vraiment un succès, et d'ailleurs, on a renouvelé un partenariat là, dernièrement avec eux, justement pour une dernière édition, puis ça, c'est important pour nous de malgré le fait qu'on veut s'inscrire dans une approche, ce qu'on appelle une approche universelle, hein, que ce soit accessible à tous, mais il fallait quand même avoir, on avait des grandes préoccupations, c'est ces clientèles spécifiques-là, mm-hmm. et aussi le milieu défavorisé. Donc, on a toujours une préoccupation d'agir, on sait, dans les milieux plus vulnérables, c'est important d'agir, et souvent les effets négatifs d'une mauvaise alimentation sont davantage accrus au niveau des milieux défavorisés. Donc, on a toujours cette préoccupation-là d'agir soit dans les milieux défavorisés ou dans des clientèles spécifiques.
Est-ce qu'il y a des témoignages, Éric Lamothe, qui vous ont davantage marqué dans la construction, la création de ce livre?
Bien, je vous dirais d'entrée de jeu d'avoir une préface du docteur Martin Junot de l'Institut de cardiologie de Montréal, qui est directeur de la prévention, puis qui, lui, depuis 30 ans, qui prône sur l'importance de la prévention, sur les déterminants de la santé. Ça, je vous dirais, c'était d'entrée de jeu un témoignage quand même assez marquant. Mais c'est de voir aussi, pas plus tard qu'hier, j'étais justement à Gaspésie, à Gaspé, où on allait faire le lancement régional de notre livre, puis de voir ces gens, il y a un acteur dans une commission scolaire qui a mis en place un programme extraordinaire qui s'appelle l'APIC, qui vient justement faciliter l'intégration de la pratique des jeunes, mais il faut comprendre que lui, sa réalité, sa commission scolaire, elle s'étend sur un littoral de 200 km au niveau de la Gaspésie, puis de rendre accessible, de se préoccuper de l'accessibilité à une pratique d'activité physique pour les jeunes, malgré le contexte, puis là, je vous donne un exemple précis, là, malgré le contexte d'une grandeur de territoire, puis de réussir quand même à amener plus de 200 jeunes à être actifs quotidiennement, c'est des réussites qui sont incroyables. Puis de voir par la suite une prise en charge du milieu pour la poursuite de ce projet-là. Donc, on était là à Québec en forme comme pour créer un effet levier, mais de voir que la communauté maintenant s'investisse dans ce projet-là pour justement que ce projet-là continue. Ça, c'est des exemples là, qui sont pour nous des perles.
Éric, il reste tout de même des enjeux. On ne peut le nier. On parle d'obésité, d'épidémie d'obésité, ça, un petit peu partout à travers le monde. Oui. Différents enjeux aussi de problèmes de santé publique majeurs. Donc, on peut constater qu'il reste des obstacles. Est-ce que vous en avez identifié quelques-uns?
Bien, je vous dirais... Nous, c'est sûr que c'est un mouvement qui, on le voit, la norme sociale qui a évolué depuis les 10 dernières années, où la préoccupation des saines habitudes de vie est de plus en plus présente, il y a de plus en plus d'acteurs qui s'y préoccupent. Mais justement, c'est le début. Il faut continuer dans cette voie-là. Oui, il reste encore des enjeux. Écoutez, juste en termes d'environnement, le terme qu'on utilise, on vit dans des environnements obésogènes, c'est-à-dire des environnements qui nous amènent à que ce soit nos déplacements, que ce soit par l'auto, au travail, on est toujours assis. Les jeunes à l'école sont souvent assis, donc à la maison, la télévision, etc. Donc, cet environnement-là qui fait en sorte que on peut rester pratiquement inactif toute la journée puis être fonctionnel. Donc, comment qu'on peut amener à créer ces environnements-là pour rendre des choix faciles d'être actifs? Les gens, on n'a plus à convaincre les gens de l'importance des saines habitudes de vie. Je pense que ça, les gens sont rendus là. Par contre, comment qu'on peut venir faciliter le passage à l'action? Et c'est là le prochain défi, d'amener les gens maintenant à mettre en application ces pratiques, ce mode de vie actif et la saine alimentation pour venir faciliter ces choix-là. Je voudrais que le défi reste encore là.
En terminant, Éric Lamothe, excellente nouvelle, je pense, pour plusieurs décideurs, organismes et pour toute la population. C'est le lancement de cette politique gouvernementale de prévention en santé lancée la semaine dernière par la ministre Charlebois. Ça a été reçu comment du côté de Québec en forme?
Bien, c'est clair que pour nous, c'est une avancée, c'est une vision que le gouvernement se donne par rapport à la prévention et c'est ce qu'on a toujours souhaité. Puis je vous dirais, c'est vraiment une étape là, importante pour nous là, pour venir faire évoluer cette norme sociale-là. Mais maintenant, on a une politique, mais maintenant, on attend aussi le plan d'action qui va en découler.
Ouais.
Et c'est là qu'on veut être un acteur présent pour la mise en œuvre de ce plan d'action-là.
Donc, il reste du travail et vous continuez à être là, Éric Lamothe.
Oui, c'est clair. Bien, en termes d'organisation, nous, notre mandat se termine, mais c'est clair qu'il y a encore du travail à faire. J'ai confiance aux acteurs qui sont présents puis qu'on va évoluer comme société en termes de prévention à la santé.
Est-ce que vous savez qui aura les nouveaux défis, les nouveaux projets, les nouveaux enjeux? De quelle façon le flambeau sera passé?
Ça, je vous dirais, ça reste encore à définir. Par contre, ça va faire partie là, des travaux qui vont se faire là, dans la prochaine année là, pour les poursuites. Oui.
Alors, on pourra vous allez nous lancer bien sûr l'alarme parce qu'on devra parler à ces nouveaux intervenants-là, Éric Lamothe. On compte sur vous. Pour un Québec en forme est disponible gratuitement par téléchargement pour unquebecenforme.org. Éric Lamothe, vous êtes le directeur général de Québec en forme. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Bonjour Sylvie Anoussami.
Oui, bonjour Madame Paquette.
Vous êtes sage-femme responsable de cette maison de naissance, Jeanne Mance, toute nouvelle maison de naissance sur l'île de Montréal, la troisième seulement, qui était attendue. Hein? On parle de plusieurs mois de retard quand même dans l'ouverture de cette maison de naissance.
Tout à fait. On est très contents, on est très enthousiastes. La clientèle est tellement heureuse d'avoir enfin cette maison de naissance. Tout à fait.
Attendu parce que la maison de naissance Jeanne-Mance, c'est la seule à desservir les familles de l'est de l'île de Montréal. Vous pensez, vous prévoyez accueillir combien de familles annuellement, Sylvie?
Alors, avec cette maison de naissance, nous comptons accueillir 320 familles et femmes pour leur suivi complet de grossesse et les prochaines années.
Dans les prochaines années, avec un mandat quand même assez particulier, vous ciblez des familles qui vivraient dans des situations un petit peu plus de vulnérabilité.
Exactement. En fait, cette maison de naissance est un projet qui a été déposé vraiment novateur et qui correspond en tout point aux nouvelles orientations du ministère de la Santé et des Services sociaux. En fait, il comprend un volet à l'attention des femmes et des familles vivant en contexte de vulnérabilité. Et c'est l'un des plus grands défis du domaine de la périnatalité qui oui. consiste à rejoindre ces femmes et ces familles qui sont en plus touchées par les risques de santé entourant la période périnatale. Natale. D'ailleurs, quand on regarde le portrait du centre sud, parce qu'on est situé, la maison de naissance Jeanne-Mance est située entre Papineau et Ontario,
oui. hein, mm-hmm.
voilà, au 18-22 Ontario Est. Mm-hmm. Et ce portrait décrit très clairement que sur les 36 000 personnes qui vivent dans ce quartier, en fait, en moyenne, on a plus de jeunes et plus de personnes qui vivant sous le seuil de pauvreté que sur le reste de l'île de Montréal. Et sur cette population, en fait, il y a 48% de familles avec enfants qui sont des familles monoparentales, 23% qui ont des habitants du quartier qui sont issus de l'immigration, puis 43% mmh. des enfants qui vivent sous le seuil faible de revenus, en fait, et puis 12% des résidents qui ne possèdent aucun diplôme. Donc vraiment, ça s'inscrit dans ce portrait-là. Puis l'approche globale de la santé et les services de maternité complets qui caractérisent le modèle de pratique des sages-femmes et doit être mis de l'avant auprès de cette clientèle. Et mmh. cette maison de naissance qui est située dans ce quartier-là, va permettre d'atteindre ses objectifs, en fait.
Mais vous avez mentionné, Sylvie, que le grand défi, c'est d'aller les chercher, ces jeunes mmh. mamans-là. Comment mmh. vous pensez vous y prendre?
Alors vraiment, on est super heureux justement parce qu'on a pignon sur rue, figurez-vous.
Oui, c'est vrai.
On a une pignon sur rue, puis les gens passent dans la rue, rentrent, cognent à la porte, posent des questions. Premièrement, ça c'est mmh. la première approche. La deuxième approche, c'est qu'on a vraiment... On est heureux de vous dire que le ministère a mis beaucoup d'aide à notre égard, mm-hmm. puisqu'on partage nos locaux, et ça c'est une première, hein, on partage nos locaux avec l'équipe 05 ans.
Oui.
du programme Jeunesse. Et grâce à eux, en fait, on accueille dans nos locaux une nutritionniste, une travailleuse sociale, une infirmière qui va nous permettre d'envelopper cette clientèle qui vit en contexte de vulnérabilité.
Oui, de continuer à suivre les familles aussi après les naissances.
Exactement, parce que en fait, ces professionnels de la santé suivent des familles de l'équipe 05 ans, des familles CIP, et ces professionnels-là ont un échange avec nous, donc mm-hmm. peuvent nous référer des clientèles en contexte de vulnérabilité.
Oui, voilà, on se rend compte que c'est un projet en effet très novateur, qui a plusieurs avantages à passer via une maison de naissance. Est-ce que l'offre suffira à la demande, Sylvie?
Alors, pour notre capacité à nous, à Jeanne-Mance, nous avons 8 équivalents temps complet sages-femmes et selon le ministère, on peut accueillir pour chaque temps plein sages-femmes 40 suivis complets à l'année.
Mm-hmm.
Donc oui, on sera à pleine capacité grâce à cette maison de naissance de pouvoir offrir ces 320 suivis complets attendus par le ministère.
Mm-hmm.
Ça, c'est certain. Ça, c'est une première chose. Puis par rapport à avant, c'est-à-dire que depuis 2009, en fait, on n'avait pas de maison de naissance, donc on accompagnait les femmes et les familles soit à la maison pour la naissance, soit à l'hôpital. Et le fait d'avoir une maison de naissance, ben, ça va nous permettre de suivre un plus grand nombre de femmes aussi, parce que ça nous permet d'augmenter la productivité, l'efficience de l'équipe, mmh. de simplifier l'organisation du travail, d'améliorer l'accessibilité aux femmes et en contexte de vulnérabilité, comme je vous le disais tout à l'heure, et surtout, surtout, et ça je suis très fière de vous le dire, de répondre aux désirs exprimés par les femmes et les familles.
Ouais.
Parce que ça part de là, et aussi des organismes communautaires que nous côtoyons tous les jours, en fait.
Et vous continuez à travailler de près avec l'hôpital Saint-Luc, j'imagine aussi, en cas d'urgence, vous pouvez référer aux gens là-bas.
Tout à fait, parce qu'on a une entente avec Saint-Luc. Alors, selon nos lois et nos règlements, en tant que sage-femme, faisant partie de l'ordre des sages-femmes, nous avons des règlements de consultation, transfert. C'est pour ça qu'on a une entente avec l'hôpital Saint-Luc, qui nous a soutenus depuis le début, depuis 2008. Et plus ça va, nos relations sont... Enfin, l'équipe sage-femme à Jeanne-Mance est en amour avec Saint-Luc et je n'ai pas honte de le dire. Je suis très fière de le dire. Vraiment, on a une très belle collaboration. Ouais.
Et bientôt, les familles du centre-sud ou de l'est de l'île de Montréal seront en amour avec vous, Sylvie.
Oui.
Meilleure visibilité pour les sages-femmes, pour les maisons de naissance et évidemment notre souhait, du moins en tant que résident que Montréalais, mais également de partout au Québec, c'est d'avoir davantage de maisons de naissance au Québec. Sylvie, Anoussami, vous êtes sage-femme responsable de la maison de naissance Jeanne-Mance, un tout nouveau bébé, cette maison de naissance. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Madame Paquette.
Au revoir.
Au revoir.
Deuxième partie de cette émission, c'est bon pour la santé. Merci d'être encore des nôtres. Tout à l'heure, je parle avec Nancy Godet. Elle s'occupe de ce centre d'hébergement Manoir Soleil et de la garderie familiale attenante qui s'appelle Au Petit Rayon. C'est du côté de Chambly. Et on pourra voir tous les effets bénéfiques que ça peut avoir pour les petits et pour les grands. Cette très belle initiative. Mais pour le moment, j'ai devant moi Héloïse Allard. Elle est ergothérapeute propriétaire de la clinique pour enfants ErgoClic. Merci d'être là, Héloïse.
Tout le plaisir est pour moi.
Ce mois de novembre, mois de sensibilisation aux troubles d'apprentissage, ça touche 800 000 personnes au Québec. C'est énorme.
C'est énorme. C'est incroyable. C'est beaucoup d'enfants par classe. Alors, c'est beaucoup pour les enseignants et peu de ressources,
malheureusement. Et beaucoup de travail pour les parents, là, avec les devoirs, avec la routine à la maison. On est là aujourd'hui pour donner des outils concrets, pour parler, bien sûr, de ce quatrième grand défi de l'apprentissage qui est destiné justement aux parents. Votre spécialité, vous et Héloïse Allard, c'est la dyspraxie, c'est bien ça?
Oui, tout à fait. Donc, en ergothérapie, on adresse tout ce qui est moteur, motricité, tout ce qui est sensoriel, et je me spécialise, entre autres, avec la dyspraxie.
C'est quoi ça?
La dyspraxie. Donc, dys veut dire difficile et praxie veut dire mouvement. Donc, les mouvements de l'enfant sont difficiles à réaliser en séquence, par exemple, pour s'habiller. Donc, mettre le manteau, enclencher la fermeture éclair, la montée, tout ça, c'est plusieurs étapes. Et pour l'enfant, c'est ardu. Donc, les enfants qui sont dyspraxiques sont souvent perçus comme des enfants maladroits, parfois paresseux. Et ce n'est pas le cas. Et parfois, certains deviennent des clowns, ce qui est un bon mécanisme de défense, mais c'est parce que c'est très difficile. Donc, les mouvements pour eux sont difficiles. Et il y a plusieurs types de dyspraxie. On appelle aussi le TAC, trouble d'acquisition de la coordination.
OK.
Les deux terminologies sont similaires et sont utilisées presque comme des synonymes à l'heure actuelle. Par contre, c'est des terminologies qui évoluent dans le temps selon les régions, selon les pays et aussi selon les professions.
Oui.
Donc voilà.
J'imagine aussi l'intérêt que les chercheurs ou que les spécialistes de la santé ont envers les troubles d'apprentissage dans différents pays. J'imagine que ce sont souvent des enfants qui sont marginalisés dans les cours d'éducation physique, par exemple.
Oui, tout à fait. Dans les cours d'éducation physique, quand c'est la motricité globale qui est affectée, mais parfois ça peut être la calligraphie seulement. Et à ce moment-là, c'est des enfants qui deviennent illisibles. On parle alors d'une dysgraphie, donc c'est une branche de la dyspraxie. Il y a des enfants pour qui c'est simplement l'habillage ou les activités en séquence. Donc, un portrait type d'un enfant qui a une dyspraxie, c'est l'enfant qui est maladroit en garderie, qui a des difficultés à s'habiller aussi vite que les autres, qui échappe, qui trébuche, qui s'enfarge. Quand il grandit, rendu à l'école, pour lui, les devoirs, c'est très pénible, l'écriture, c'est très ardu. Et plus les apprentissages augmentent, plus c'est exigeant pour lui parce qu'il doit dépenser une énergie pour l'activité motrice, entre autres, de l'écriture.
Donc, ce que je comprends, Héloïse, c'est que ça s'identifie quand même assez tôt, la dyspraxie.
C'est très méconnu et c'est ce qu'on appelle le handicap invisible.
Ah, okay.
Donc, on estime qu'il y a un enfant sur cinq par classe qui en serait atteint, mais ce n'est pas un enfant sur cinq qui est diagnostiqué. Donc, c'est vraiment méconnu et ce n'est pas tous les ergothérapeutes ni tous les médecins qui sont au fait de qu'est-ce que la dyspraxie. Mmh.
Maintenant, votre approche à vous, Héloïse Allain, c'est que bouger peut aider ces enfants dans leurs troubles d'apprentissage. Les adultes aussi, hein, parce que bouger pour apprendre, c'est bon pour bien des personnes.
Absolument, absolument. Je vous regarde, vous et moi, on bouge en parlant. Ça nous aide à rester attentif. C'est pas rare si on est en voiture et on est un peu fatigué. Le meilleur exemple que j'ai à donner, c'est que notre premier réflexe, c'est de prendre de la gomme pour stimuler les muscles de la mâchoire et hop, ça nous réveille. Donc, on bouge un peu, pas beaucoup, mais ça nous éveille beaucoup. Il y a une grande différence pour moi entre lire un mot. Paraît-il qu'on le retient à 10 % après 24 heures. Si on l'entend, on le retient à 20 à 30 % après 24 heures. Okay. Et si on est actif ou on bouge, on le retient à 90 % après 24 heures. Alors, je mets l'emphase sur bouger pour apprendre. Mm-hmm. Je trouve que c'est extrêmement important.
Mais il y a quand même un paradoxe dans l'enfant qui a de la difficulté à bouger, c'est-à-dire là, on parle de séquence, et qui l'apprend quand même en bougeant. Vous expliquez ça de quelle façon?
Oui, c'est vrai. On encode mieux en mémoire lorsqu'on bouge. Par exemple, pour les mots de vocabulaire, les copier plusieurs fois, c'est bien, mais ça active seulement les muscles de la main. Ça peut être ardu pour les dyspraxiques. Alors, à ce moment-là, bon, on encode à 10 à 30 parce qu'on était un peu actif, mais peu. Mm-hmm. Et, mais si on saute sur un trampoline chaque lettre du mot, moment-là, je peux vous dire que le mot est beaucoup plus solidement encodé en mémoire.
Et il y a aussi la dimension de s'amuser avec l'apprentissage.
Absolument. Quand je dis être actif et bouger, ça implique le plaisir, la musique et tout ça. Et pour les ergothérapeutes, notre dada, c'est la proprioception ou l'apprentissage qu'on appelle kinesthésique, donc par le corps. Donc oui, quand on apprend en bougeant, en activant nos muscles et nos articulations, on le ressent dans tout notre corps. Écrire une lettre en tout petit pour l'apprendre, c'est bien, mais l'écrire en gros au tableau avec une éponge mouillée en faisant un son, c'est extraordinaire.
Ah oui.
Et c'est beaucoup plus puissant.
Et ça a l'air amusant. J'ai presque le goût de le faire moi-même, Héloïse.
Merci.
Bon, justement, pour les parents qui nous écoutent, qui sont à la maison, pour qui les devoirs, c'est vraiment ardu à chaque soir, ou encore d'autres choses, là, vous avez mentionné attacher le manteau, la routine le matin, on est pressé, tout ça, ça fait partie aussi de l'apprentissage, d'une routine. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça devienne amusant et plus aisé pour notre enfant?
Je pense que les enfants, on leur dit souvent quoi faire d'abord. En fait, il y a plein de choses qu'on peut faire. On leur dit souvent, bien, va t'habiller. Oh, mais va t'habiller, ça comprend mettre les bottes, mettre la salopette, mettre le manteau, mettre la tuque, mettre les mitaines. Et pendant que l'enfant fait ça, il peut être facilement distrait sur autre chose ou éprouver des difficultés lorsqu'il y a dyspraxie, par exemple. Alors, à ce moment-là, des routines sont très aidantes, des routines visuelles qui diminuent les mots nécessaires du parent.
Ah oui.
Et puis qui permettent à l'enfant de voir ce qu'il lui reste à faire. Un petit rappel visuel rapide, ça aide beaucoup. Donc, ça peut être fait pour l'habillage, ça peut être fait aussi pour les devoirs. Pour ce qui est des devoirs, c'est souvent très pénible pour les parents. Ce que je recommande souvent, c'est de prendre des pauses fréquentes, mais des pauses très courtes et très puissantes, très organisantes.
Okay.
Je m'explique. Donc, l'enfant sort ses devoirs, il s'installe. Une fois installé, on fait un 5 minutes de devoir, et puis ensuite, on fait 1 minute 10 sauts.
Ah, oui, oui, oui.
Ensuite, un autre 5 minutes de devoir où on tranche selon la durée qu'on veut pour les enfants ou avec laquelle on est à l'aise, mais un minimum de 2 ou 3 pauses, c'est pas de trop. Mm-hmm. Donc, des pauses pour bouger, sauter sur place, faire des push-ups, faire des pompes sur la chaise, souffler dans son poing contre résistance. C'est toutes
danser
des choses...
Danser sur une musique que l'enfant aime,
danser,
ça pourrait être ça.
Absolument, oui. Oui. Chanter, mais une pause qui est structurée, parce qu'on veut pas que l'enfant parte danser jusque dans la cuisine.
Oui,
ou jusque
ça.
Dans une autre pièce de la maison. Donc, quelque chose de structuré et organisant.
Oui. Est-ce que la minuterie peut aider? On en entend souvent parler, là, que l'enfant puisse voir une horloge qui défile le temps. Pour lui, ça lui donne une référence.
Absolument. L'organisation dans le temps, c'est important. L'organisation dans l'espace aussi. Donc, les minuteries, celles que je recommande, c'est celles qui sont visuelles. Ça peut être simplement un sablier.
Ah, ben
on
oui.
voit le temps s'écouler. Par contre, une minuterie de cuisine qui fait juste ding, on ne voit pas le temps s'écouler. Donc, il existe des minuteries comme le Time Timer, les sabliers. Il existe des applications avec des minuteries visuelles aussi où on voit le temps qui s'écoule et le temps qui nous reste mm-hmm. à passer. Donc, l'enfant peut se structurer comme ça.
Héloïse, le temps file, mais pour les parents qui se disent... Bon, les caractéristiques associées à la dyspraxie me semblent que ça ressemble à mon enfant, à mon neveu, à mon petit enfant. Je fais quoi avec ça puisque ça semble si difficile à identifier, à être diagnostiqué? Il y a des professionnels de santé vers qui on peut se tourner?
Absolument. Les médecins et les ergothérapeutes. Donc, l'ergothérapeute peut faire l'évaluation de la motricité et le médecin, c'est lui qui va confirmer le diagnostic avec nos observations.
Oui, parce que après ces stratégies-là, on a parfois envie qu'elles suivent vers le milieu scolaire. On aura envie de sensibiliser l'enseignant de notre enfant à ce qui se passe, à ce qu'on fait à la maison, à ce qui fonctionne. On peut aussi en parler avec l'enseignant de notre enfant de ça.
Absolument. Et je vois de plus en plus d'enseignantes qui sortent et qui ont des activités qui sont en classe qui sont extrêmement puissantes pour les enfants. Par exemple, lancer le ballon à des élèves pour leur donner le droit de parole.
Ah, ben oui.
Quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. Donc, les enfants, je peux vous dire qu'ils étaient extrêmement attentifs. Ils étaient actifs et ils étaient tous en attente pour répondre.
Ben oui, ben oui.
Bouger, sauter, c'est des choses qui sont bonnes pour les enfants de façon organisée. Manipuler aussi, manipuler les objets, par exemple des bâtonnets à café pour les additions. Les additionner ensemble, faire des groupes. Ensuite, ça va être intéressant quand on va vouloir instaurer, par exemple, les fractions. Donc, on va pouvoir montrer à l'enfant pourquoi une demi égale 3/6 en coupant 2 bâtonnets de façon différente. Donc, ça va être visuel, manipulé. Je pense que c'est ça qu'il faut... Et les enseignantes, de plus en plus, sont très sensibles à ça.
Et le plaisir dans l'apprentissage, je le répète, c'est très important. En terminant, ce 4e grand défi de l'apprentissage, un colloque pour parents, c'est 16 conférences dans une journée complète. On va parler, oui, de dyspraxie avec vous, Héloïse Allard, mais également de TDAH, d'anxiété, troubles du spectre de l'autisme, dyslexie, en fait, plein de troubles d'apprentissage. Vous allez être sur place. C'est un bon outil pour les parents, cette journée-là?
Oui, et je pense que c'est enfin de reconnaître que la différence, ça va être des atouts pour les enfants. Léonard de Vinci était dyslexique et il a fait des merveilles. Et Harry Potter, l'acteur qui a fait Harry Potter, a aussi une dyspraxie, un TAC.
Ah, mais c'est vrai qu'il y a plein d'individus qui ont des troubles d'apprentissage.
Et, ben oui. Et les enfants qui ont des difficultés ont des grandes forces, la créativité, l'humour. Et ils ont des grandes forces d'adaptation aussi. Donc, je pense que ça va être d'utiliser leurs forces comme bras de levier et de s'outiller avec tous les kiosques, les exposants qui vont être là et les conférenciers pour aller chercher le plus d'outils et d'interaction avec les parents.
Dans votre cas, c'est en après-midi. Héloïse Allard, vous êtes ergothérapeute, propriétaire de la clinique pour enfants ErgoClic. On peut aller, vous avez un site également, on peut y aller, ou instituta.com également pour en savoir davantage sur cette journée 4e grand défi de l'apprentissage, un colloque pour les parents. Merci beaucoup, Héloïse.
Merci infiniment à vous.
Nancy Duguay, Nancy Godet, oui, pardon, je me mélange. Nancy Godet, bonjour.
Bonjour.
C'est parce que je connais Nancy Duguay.
Ah, voilà.
Mais elle n'habite pas à Chambly comme vous et non. N'est pas vice-présidente du CHSLD privé Manoir Soleil de Chambly et fondatrice de la garderie Au Petit Rayon. C'est vraiment une initiative bonbon, cette idée qui est la vôtre, Nancy Godet, et de votre famille aussi, parce que ça fait quand même quelques années là, que ça a été mis de l'avant, ce beau projet.
Oui, en fait, Manoir Soleil a 33 ans d'existence, a été fondée en mai 83 par mes parents.
Mm-hmm.
Donc, ça a été un CHSLD dès le départ. Ma mère était infirmière en gérontologie, mon père contracteur. Donc, c'était un beau mélange pour construire quelque chose de beau pour les personnes âgées en perte d'autonomie.
Mm-hmm.
Moi, j'ai étudié en psychologie. Je me suis concentrée plus pour l'enfant, malgré le fait que j'ai été élevée avec des personnes âgées. J'avais une attirance là au niveau du contact avec les enfants. Et puis, en travaillant comme enfant de fondateur, vous savez, on fait un petit peu n'importe quoi dans ce temps-là. On fait la vaisselle, on fait le ménage, on fait l'infirmière. Donc, je me suis dit, mélanger les deux, ça serait une très belle idée. Et en même temps, j'ai fait des enfants, donc un petit peu égoïstement, je voulais amener mes enfants avec moi et pouvoir les avoir près de moi durant la journée.
Donc, c'était une intuition au départ qui s'est révélée être cette initiative. Vous recevez quel genre de clientèle au Manoir Soleil?
Le Manoir Soleil, c'est un CHSLD, donc un centre d'hébergement de soins de longue durée. C'est une clientèle en lourde perte d'autonomie.
Okay.
On accueille les gens ici jusqu'à la fin de la vie.
OK. Oui. Et à la garderie, au Petit Rayon, quel genre d'enfants? Vous en avez 6, je pense. Donc, c'est assez petit.
Oui, oui, effectivement. C'est une garderie familiale, donc 6 enfants. Au total, le maximum auquel on a droit là, selon les règlements du ministère.
Mm-hmm.
Donc, c'est 6 enfants de habituellement 2 ans à 5 ans. Il m'est arrivé d'en prendre des plus jeunes qui étaient comme le petit frère ou la petite sœur d'un plus vieux.
Oui.
Donc, pour ne pas les séparer, on les accueillait à la garderie.
Vous avez même vos petits-enfants maintenant au sein de la garderie.
Oui, maintenant, bien oui, c'est ça. Donc, mes deux petits-fils, j'ai deux petits jumeaux qui sont à la garderie et qui, c'est ça, n'ont pas encore 2 ans, ont 18 mois, 17 mois en fait. Oui, oui.
À quel moment, Nancy, les résidents du manoir et les petits de la garderie peuvent se croiser?
À tout moment, en fait, notre local principal où les enfants font des activités physiques, des activités qui sont plus bruyantes, c'est un local qui est aménagé au sous-sol, un très grand local qui est avec le salon de coiffure, la salle des loisirs et tout ça. Donc, on partage les locaux au sous-sol. Mais toute la journée, les enfants se promènent soit avec une corde de promenade ou un poupon-bus. Donc, on a un petit poupon bus de 4 places. Ils se promènent dans le centre au complet. On a 3 salles à dîner, en fait, pour nos résidents. Donc, c'est sûr qu'à tous les midis, nos enfants chantent une chanson de bon appétit au travers les gens. Et puis, ça, c'est le moment où vraiment, il y a toujours... Cette activité-là est là tous les jours de la semaine.
Ouais.
Les autres, c'est des activités plus spontané, je vous dirais, puis on y va aussi selon l'humeur, la santé, ce que l'environnement nous permet pour les activités de bricolage. On fait du dessin, on a fait des activités culinaires, des compotes de pommes, des biscuits, des choses comme ça. Des lancements de ballons, des jeux de ping-pong avec des ballons gonflés, là, des ballons, comme on dit. Là.
Oui.
Donc, c'est ça, des activités.
C'est très diversifié.
Oui, 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 oui.
À se croiser tous les jours comme ça, petit et grand, j'imagine, Nancy développe des liens assez privilégiés.
Oui, on a ce qu'on appelle des coups de foudre quelquefois. C'est arrivé entre certaines personnes âgées où je me plais à penser qu'il y a peut-être des âmes sœurs qui se retrouvent, je ne sais pas trop. Mais il y a des petits coups de foudre qui se passent. Donc, on peut utiliser, entre guillemets, cette espèce de belle relation pour faire un baume sur l'humeur d'une personne âgée. Supposons une personne âgée qui est en perte cognitive, qui est un petit peu de mauvaise humeur un matin. Quand on joint un enfant, l'enfant se présente, puis s'il y a cette espèce d'étincelle-là, ben on change toute l'humeur de la personne, puis on peut changer sa journée au complet, juste parce qu'elle a eu la présence d'une petite fille ou d'un petit garçon qui lui a apporté ses toasts le matin, supposons.
Mm-hmm, mm-hmm.
Donc là, c'est les meilleurs toasts du monde, puis tu sais, on a une belle chimie qui peut s'installer. On en a eu, oui, effectivement.
Ça apporte beaucoup aux résidents du Manoir Soleil, mais aux enfants également. Qu'est-ce que vous pensez que ça peut déclencher en eux, à ces petits-là?
Moi, je pense que pour les enfants, ça apporte une espèce de non-jugement. Les enfants, déjà, à la base, ils l'ont pas très fort, le
c'est
jugement
vrai.
De la différence. Donc, c'est encore plus vrai chez les enfants qui passent à la garderie au petit rayon parce que tous les jours, tout au long de la journée, ils peuvent être confrontés à des gens qui ont des discours un petit peu incohérents, un gros fauteuil gériatrique, une personne qui bave un petit peu, qui a de la salive en trop, une main ridée.
Mm-hmm.
Les enfants spontanément vont vers ces gens-là sans porter de jugement. Puis ça fait partie de la vie, ça fait partie du vieillissement, ça fait partie de leur entourage, c'est ça la vie. Donc, il y a un respect qui s'installe, je pense, chez l'enfant, puis une espèce d'attirance, puis de dire, ben c'est ça, cette personne-là a fait partie de ma vie, de mon développement, de ma société. C'est ça.
Oui, Nancy Godet, souvent les enfants, pas tous bien sûr, mais ont peur de la mort ou du moins sont fascinés, ont beaucoup de questions par rapport à ça. Est-ce que vous abordez cette question-là qui est quand même assez délicate avec eux?
Oui, effectivement, parce que il y a des journées où peut-être monsieur Tremblay ou monsieur est plus là. Donc, pourquoi il est plus là? Les enfants de 4-5 ans, habituellement, ceux de 2-3 ans sont peut-être un petit peu moins conscients de ça, mais les 4-5 ans vont nous demander. C'est tout simple. La personne, monsieur Tremblay, supposons, là, monsieur Tremblay a vieilli, son cœur s'est arrêté. Il est mort, il est parti, il est décédé, mais tu peux lui parler toujours dans ton cœur parce que quand tu fermes tes yeux, tu le vois dans ton image, puis tu peux lui parler dans ton cœur. Mais ça fait partie de la vie. Il était vieux, il est parti. Doucement, c'est terminé.
Mmh. Et ça aussi, ça fait partie de l'apprentissage d'un enfant. Et s'il comprend ça, il comprend peut-être mieux après le départ de ses propres grands-parents à lui et de d'autres départs dans sa vie, dans ses proches. Là.
Oui, voilà. Oui. Voilà. C'est un apprentissage, c'est un plus, je pense, pour les enfants aussi. Donc, c'est pas juste un médicament pour les personnes âgées, de voir un enfant, puis de voir que la vie se poursuit après lui, c'est aussi une expérience très enrichissante pour les enfants. On est gagnant de tous les côtés.
Mais quand les enfants quittent pour l'école, c'est sûrement vos résidents qui vivent ce petit deuil-là aussi, Nancy?
Oui, peut-être pour certains. On en a vu, mais ils sont vite comme... Il y en a un autre tout de suite qui arrive
c'est
après.
Vrai.
Donc, ils perdent jamais complètement toutes les enfants. Donc, c'est juste un à la fois. Oui, on peut avoir des questionnements. Bien, souvent, ils vont à l'école, puis les enfants sont tellement fiers de dire « je m'en vais à la grande école », que là, la personne âgée lui parle, lui dit « bien oui, tu vas être grand, tu vas apprendre la lecture, etc. » Donc, puis là, il y a un autre enfant qui vient s'ajouter. Puis,
Il y avait, j'ai dans mes notes, Nancy, un exemple de la petite Jade. On pourrait se laisser là-dessus. Vous aviez une anecdote en ce sens?
Oui, comme j'expliquais tout à l'heure, supposons qu'on va l'appeler Madame Fleur. Madame Fleur, elle avait un caractère un petit peu particulier, donc quelquefois très, très fâchée. Ses toasts le matin, c'était pas bon, c'était trop mou, c'était trop chaud, c'était pas assez cuit. Bon. Donc, quand
ça
les
marchait
préposés,
pas.
Non, c'est ça. Quand les préposés s'apercevaient que Madame Fleur était un petit peu marabout, comme on peut dire en bon québécois, demandaient à l'éducatrice, écoute Cathy, viendrais-tu avec Jade? Madame Fleur est pas contente ce matin. Jade et Madame Fleur, c'était vraiment un coup de foudre. Donc, Jade lui préparait, la préposée préparait les toasts et c'est Jade qui lui apportait les toasts. Ces toasts-là, c'était les meilleurs du monde.
Et ça commençait mieux la journée de Madame Fleur.
C'était vraiment, c'était vraiment un revirement spectaculaire de caractère, de tempérament. C'était extraordinaire de voir ça.
Oui. Oui. En terminant, Nancy, seule initiative au Québec où ça a permis de semer cette idée, cette graine dans la tête de d'autres personnes?
Je crois que oui, parce qu'on a fait une émission en format familial.
Oui, oui.
Ça a apporté beaucoup d'appels de différentes personnes qui trouvent l'idée extraordinaire. Donc, je partage mon expérience, puis c'est sûr que j'encourage ce milieu-là. Moi, c'est facile pour moi parce que je suis chez moi. Par contre, bon, il peut avoir d'autres difficultés, mais c'est vraiment une expérience avec ce nombre d'enfants-là, avec les gens en lourde perte d'autonomie qui présentent des maladies cognitives ou des déficits physiques importants. C'est vraiment une expérience tout en douceur.
Ouais. Et comme dirait ma recherchiste Anne-Laure Janson, c'est du bonbon. Nancy
voilà.
Godet, vous êtes présidente du CHSLD privé Manoir Soleil de Chambly et fondatrice de la garderie Au Petit Rayon. Salutations à tout le monde chez vous, Nancy. Merci beaucoup. Ça a été vraiment très agréable de vous parler.
Je fais le message et merci à vous d'avoir pris le temps de nous écouter.
Au revoir.
Au revoir.
Et on termine avec ce petit coup de cœur que je vous présente à chaque semaine. Aujourd'hui, une initiative pour faire rayonner le Centre Filou. C'est un centre dirigé par Diane Chenevert qu'on aime beaucoup ici, Centre Filou, qui est un lieu qui vient en aide aux parents d'enfants qui vivent avec de lourds handicaps. Et c'est ce troisième album qui s'appelle « Doux moments pour Filou », troisième opus donc qui sera disponible dès le 25 novembre prochain. C'est à la suite de deux autres albums quand même qui ont eu énormément de succès, Berceuse pour Filou et Par amour pour Filou également, des albums qui ont été encensés par la critique, qui se sont même démarqués dans le milieu musical, qui ont remporté chacun le Félix de l'année album instrumental. Et on a eu envie de continuer ces belles initiatives. Oui, d'une part, pour faire rayonner le Centre Filou, mais également, c'est toujours dans le but d'amasser de l'argent pour aider le centre à continuer ses activités. Sur ce nouvel album, qui, je vous le rappelle, est disponible dès le 25 novembre, vous pourrez entendre plusieurs artistes de chez nous qui se sont regroupés, soit pour composer littéralement une nouvelle pièce ou encore pour interpréter. Il y a plus d'une douzaine de pièces sur cet album instrumental. On parle du pianiste François Bourassa, également de Coral Hagen, Oliver Jones, Florence K, Michel Montreuil. Il y en a plein d'autres. Là également, je vous nomme peut-être ceux qu'on connaît davantage. Tous les profits seront versés au Centre Filou, je vous le rappelle. Et cette année, c'est quand même assez déterminant pour le centre parce qu'ils sont en campagne majeure de financement. On tente d'amasser du côté du Centre Filou 5,5 millions de dollars. Et avec cet argent, ce que l'on souhaite, c'est de déménager, d'investir de nouveaux lieux. On veut doubler les services, répondre à une demande qui est sans cesse grandissante et de plus, et ça, c'est tellement important, on veut aider des enfants de 21 ans et plus. On sait qu'il y a littéralement un vide pour des enfants qui vivent avec de lourds handicaps. Après 21 ans, il n'y a plus d'école, il y a de moins en moins de services. Mais pour les parents, ça reste quand même de grands défis. Donc, une clientèle âgée de 15 à 21 ans, parce que maintenant, c'est 0-15 ans, la clientèle. On travaille auprès de ces familles-là, mais les enfants continuent, même une fois ados, adultes, à avoir des défis et les parents à avoir besoin de répit. Donc, doux moments pour Filou, doux moments pour votre famille également si vous achetez l'album et pour vos petits. C'est ainsi qu'on met fin à cette émission de C'est bon pour la santé. C'était Jean-Sébastien de la Liberté, derrière sa console, Christiane Campagna, aux médias sociaux, Anne-Laure Janson à la recherche, Marianne Paquette au micro, qui vous invite à entrer en contact avec nous, que ce soit par Facebook, que ce soit par Twitter, que ce soit par le canal m.vusezvoix.com. Il y a le numéro de téléphone 1-800-361-0635, poste 220. On est en rediff à 17h, si vous nous avez manqué, à midi. Je vous embrasse. Portez-vous bien. On va passer à travers le mois de novembre, je vous le promets. Bye bye.